France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jérôme Cadet.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés de France Info. Une heure de débat sur l'actualité de ce week-end. Vous êtes avec nous sur France Info, à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT et sur franceinfo.fr. On va parler ce soir de la situation en Guyane, une grève générale qui débute demain. Un dimanche de campagne, Marine Le Pen à Lille promet davantage d'État. Jean-Luc Mélenchon qui fait le plein à Rennes, un Mélenchon en plein décollage. On verra cela. François Fillon qui crie toujours au complot. On verra si cette stratégie peut payer. Cette élection présidentielle décidera-t-elle de l'avenir de l'Union européenne qui fête ce week-end les 60 ans du traité de Rome? Et puis Donald Trump qui doit renoncer à abroger l'Obamacare. Est-il déjà un président empêché pour les États-Unis? Je les remercie de nous consacrer une heure en ce dimanche qui n'en compte que 23. Les informés de France Info ce soir. Christelle Bertrand, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste politique au Parisien Magazine. François Ernenwein, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de La Croix. Alexandre Devecchio, bonsoir. Journaliste au Figaro, responsable du Figaro Vox. Et Alban Micosi, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef adjoint du service international de France 2. La Guyane, le plus grand département français, tourne au ralenti depuis jeudi, les écoles, les administrations sont fermées, certaines routes sont bloquées, les Guyanais réclament un plan d'investissement pour leur territoire en proie au chômage et à l'insécurité. Ce mouvement de contestation va encore se durcir demain avec un appel à la grève générale. La ministre des Outre-mer, Erika Barretz, refuse pour l'instant de se rendre sur place. Elle était ce matin l'invitée de France Info.
Aujourd'hui, ce que je souhaite, mais vraiment, ce que je souhaite, c'est le dialogue, l'identification des demandes pour pouvoir apporter des réponses. Parce que le peuple guyanais attend des réponses. Et nous, nous voulons ce travail sérieux. Nous ne voulons pas juste aller pour avoir une discussion large politique, au bout, ne pas avoir de réponse. Le temps est compté. Le temps est compté. Eh bien, ce temps, il est précieux. Et ce temps, il sert à travailler et à répondre aux attentes.
Voilà, Erika Barretz, la ministre des Outre-mer. Au travail, nous dit-elle, une délégation interministérielle est arrivée sur place. Pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. Il y a de multiples problèmes. Hein. En Guyane, le problème est assez complexe.
Oh bah c'est l'histoire d'un conflit qu'on avait quand même vu venir. Hein. Je veux dire, il suffit d'être allé plusieurs fois en Guyane pour s'apercevoir que c'est un département qui n'est pas développé. Il y a eu des promesses, et le problème il est probablement là, c'est que des promesses ont été faites aux Guyanais. On leur a promis un plan de 2 milliards d'euros qui allait permettre de développer le département. Résultat, on signe un accord à 800 millions, extrêmement décevant. Et le peuple manifeste, les syndicats disent « Attention, après Carnaval, on sera dans la rue, on bloquera le pays. » Et là, il ne se passe rien. Et on arrive après Carnaval et le pays est bloqué.
Avec un problème de chômage de masse, 22% de chômeurs, 40% chez les jeunes. Il y a une sorte de désespoir dans ce département français, François Ernenwein.
Les chiffres sont discutés. Sur les 15-24 ans, c'est près de 50% de chômeurs. Donc effectivement, c'est une situation potentiellement explosive. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est la ministre vient d'appeler au dialogue, mais est-ce que tous les efforts ont été faits pour instaurer ce dialogue, pour le mettre en place, pour le rendre possible? C'est pas certain du tout. D'autre part, après, il faut réfléchir, pourquoi est-ce que la Guyane est à ce point le sentiment d'être délaissée? Mais le problème de la Guyane est comparable à celui de nombreuses zones du territoire français, oui, dont on ne s'est pas préoccupé depuis plusieurs années. La métropolisation...
L'outre-mer, mais pas seulement, François.
Exactement. Ouais, je pense que la revendication dans l'outre-mer est légitime, puisqu'ils sont une partie de la France, une part de la France. Mais encore une fois, le problème est plus général. C'est la métropolisation, les politiques de développement conduites en France laissent des pans entiers du territoire hors des caméras, hors de l'attention des pouvoirs publics.
Ce sont les oubliés qui refont surface,
c'est
Alexandre Devecchio.
La fameuse France des oubliés et de la France périphérique que décrit très bien le géographe Christophe Guilluier. C'est une France où finalement l'État régalien n'est plus, n'assure plus les services minimums, que ce soit en termes de police, là on est, c'est ce qu'on voit en Guyane, ou en termes de services publics. Donc on a une France avec des oubliés vraiment, et je crois que ce que réclament les Français, ceux de Guyane, Guyane, mais en général, c'est aussi le retour de l'État régalien. On voit que les principaux candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui sont plutôt obsédés par mener à bien les réformes demandées par Bruxelles et faire des économies budgétaires. Donc là, pour une fois, on commence à rentrer dans la campagne par la Guyane et je trouve ça assez intéressant.
Il y a quand même une spécificité guyanaise. Il y a cette immigration clandestine, notamment qui vient du Suriname et du Brésil. C'est la France en Amérique du Sud. C'est aussi un contexte qui est très particulier, Christelle Bertrand.
Extrêmement compliqué à gérer. Et on voit que là-dessus, François Hollande a fait typiquement du François Hollande. Semble-t-il, il a été alerté depuis des semaines et des semaines qu'il y avait un grave problème.
Il y avait une ministre originaire de Guyane dans le gouvernement de François Hollande pendant de nombreux mois, Christiane Taubira.
Et puis une ministre des Outre-mer.
Il l'a sans doute alerté, d'ailleurs.
Oui, mais
Ségolène Royal, qui était en déplacement récemment, enfin, il y a quelques jours là-bas, qui a dû aussi tirer la sonnette d'alarme. Et finalement, rien n'est fait. Aujourd'hui, la ministre chargée des Outre-mer est à Paris, ne part pas, au moins symboliquement. Je ne sais pas si ça aurait changé quelque chose sur le fond, mais la symbolique aussi dans ce genre d'affaires est extrêmement importante.
Sur le rôle de Christiane Taubira,
pour rappeler quand même que Christiane Taubira a souvent été battue en Guyane et ce n'est pas une personnalité finalement de rassemblement là-bas, non.
D'accord.
Et deuxièmement, on peut dire un mot sur la délégation qui vient de partir, la délégation qui vient d'arriver plutôt. C'est une délégation d'anciens responsables administratifs qui ont eu la Guyane en charge et qui ont échoué.
François Hennenwein, très rapidement sur cette question guyanaise.
Rien n'est fait. Je pense que c'est un peu exagéré de dire que rien n'est fait. Les pouvoirs publics s'activent. Mais c'est le contraste permanent, ici comme ailleurs, entre l'ampleur des promesses et les engagements réels pris au terme d'annonces spectaculaires.
Oui, mais il y a aussi un logiciel politique, vous avez commencé à le dire, qui est tout entier tourné vers effectivement les grandes villes, les métropoles qui sont connectées à la mondialisation. Ça fonctionne, mais il y a pour au moins 50% des Français, ça ne fonctionne pas, la globalisation, et donc c'est l'enjeu de cette présidentielle, je pense.
Sauf en campagne présidentielle, puisque tous les candidats visitent l'Outre-mer. On va parler précisément des meetings du jour. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, juste après l'info, 20h10, Yasmina Adila.
Dimanche, deux meetings pour les candidats à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était aujourd'hui à Rennes. Le président de la France insoumise revendique la présence de 10 000 personnes. Marine Le Pen était cet après-midi à Lille. La patronne du Front National a notamment pris pour cible Emmanuel Macron, qu'elle a qualifié de Jean-Claude Van Damme de la politique. Le candidat d'En Marche, lui, est en ce moment en meeting à Mayotte. Barrage levé ce soir en Guyane, suspension provisoire pour permettre aux Guyanais de se ravitailler. Le territoire est paralysé depuis le début de semaine par un mouvement de contestation sociale. Air France a annulé deux de ses vols au départ de Paris à destination de Cayenne. La ministre des Outre-mer assure avoir entendu la grogne. Erika Barenge ira sur place lorsque les conditions seront réunies. Trois personnes interpellées après le braquage spectaculaire d'une bijouterie à Monaco. Un suspect est arrêté juste après le casse. Les deux autres dans la soirée en France, près de la frontière avec la Principauté. Une partie du butin a été retrouvée. Nouvelle interpellation à Londres après l'attentat de mercredi visant le Parlement britannique. Un homme de 30 ans a été arrêté aujourd'hui à Birmingham. Il est soupçonné de préparer des actes terroristes. L'attaque revendiquée par Daesh a fait 4 morts. 22e journée du top 14 de rugby. Brive l'emporte 28 à 25 face à Montpellier. À suivre ce soir, le Stade français qui accueille Toulon. Coup d'envoi à 21h.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, Alban Micosi, France 2, Alexandre Devecchio, Le Figaro, Christelle Bertrand, Le Parisien Magazine et François Hennenwein de La Croix. C'est devenu l'un des fiefs électoraux du Front National. L'ancien Nord-Pas-de-Calais, aujourd'hui intégré dans la région Hauts-de-France, Marine Le Pen avait choisi sa capitale, Lille, pour tenir meeting aujourd'hui. Le zénith de Lille était presque plein, plusieurs milliers de personnes réunies pour écouter Marine Le Pen promettre plus d'État. Marine Le Pen qui s'en prend à François Fillon et à Emmanuel Macron.
Les deux veulent davantage encore d'Union européenne. Les deux veulent des gouvernements de la zone euro, des ministres européens. Les deux veulent donc à terme encore moins de souveraineté nationale, encore moins de France, encore plus de transferts financiers vers l'Europe de l'Est et l'Europe du Sud. Ce qui se profile, c'est bien sûr l'impôt européen, un de plus.
Marine Le Pen cet après-midi à Lille, attaque contre l'Union européenne, plaidoyer pour l'État, promesse d'abroger la loi El Khomri également. Christelle Bertrand, vous y avez vu un appel du pied aux électeurs de François Fillon.
Oui, parce que j'ai trouvé son discours assez étonnant. Pour un retour aux sources, hein, dans ces terres d'élection, on aurait pu imaginer qu'elle déploie les thèmes habituels du Front National. Or, sur l'islam, sur la sécurité, sur l'immigration, elle en dit quelques mots, bien sûr, elle y revient, mais pas de long développement sur ces thématiques-là. Elle parle d'Europe, beaucoup d'Europe. Et elle fait... Elle instaure une frontière assez intéressante entre patriotes, dont elle fait partie, et mondialistes, dans lequel elle rejette Emmanuel Macron et François Fillon. Et donc, moi, j'ai trouvé son discours extrêmement lissé, et j'ai eu le sentiment, effectivement, que l'idée était peut-être d'attirer à elle les électeurs, les derniers électeurs qui restent fidèles encore aujourd'hui à François Fillon, mais qui, les affaires se multipliant, pourraient être amenés à regarder ailleurs.
Donc, une Marine Le Pen plus apaisée que jamais, si je puis dire, puisque
oui, qui parle d'institutions, de sujets régaliens. Puis bon, elle essaye aussi de se poser en présidentiable, hein, et de pas rester dans ses sujets de prédilection, mais effectivement plus calme.
Vous partagez l'analyse de Christelle, Alexandre Devecchio ?
Bah moi, je pense que tout se tient. Je reviens à la France périphérique. Elle est dans le Nord, une France désindustrialisée avec une forte population ouvrière. Donc moi, je crois qu'elle s'adresse plus qu'aux électeurs de François Fillon, qui je pense sont assez déterminés et qui appartiennent pas tout à fait aux mêmes catégories sociales. Elle s'adresse aux gens du Nord, elle sait où elle est. Et effectivement, ce qui est intéressant avec Marine Le Pen, c'est qu'elle met en place une espèce de forme de protectionnisme intégral. Et là, je vous rejoins aussi bien sur les questions de sécurité, d'identité, que sur les questions économiques et sociales. Et aujourd'hui, c'est sa force dans une période de recomposition du système politique, où on voit qu'Emmanuel Macron est plutôt sur un logiciel de libéralisme intégral. Donc je pense qu'elle prépare plutôt le second tour face à Emmanuel Macron, en montrant que finalement, elle est peut-être la plus sociale des candidates, ce qui est un paradoxe.
Justement, son discours social est bien en deçà de ce qu'elle peut faire habituellement. Moi, c'est ça que j'imaginais justement dans ces terres du Nord, l'accent très social. Elle en fait très peu.
François Hernenwein.
Si on garde, l'apaisement est très relatif. C'est toujours le discours de rupture par rapport à la classe politique installée. Et là, elle est dans les figures de rhétorique qui ont marqué sa campagne depuis le début, que conjoncturellement, ça ne ressemble pas absolument à ce qu'elle faisait avant, mais les fondamentaux restent là. La rupture comme réponse à la crise sociale, la désertification des territoires dont elle parle, l'hostilité à l'Europe, on retrouve tous les thèmes qui ont nourri le Front National. Ce qui est intéressant de constater, c'est la rupture qui existe entre le Front National du Nord, porté par Marine Le Pen, et le Front National du Sud, porté par Marion Maréchal. Ce ne sont pas les mêmes thèmes qu'ils avancent, et ils ne s'adressent pas exactement dans les mêmes termes au même public. Et
autrement dit, elle n'aurait pas fait le même meeting à Nice, par exemple.
Les contradictions n'apparaissent pas maintenant, puisque c'est Marine qui mène la campagne, mais je pense que le Front National est divisé sur les questions qui portaient le discours de Marine Le Pen aujourd'hui dans le Nord.
Alors, l'Europe au centre de ce discours, et puis la question de l'euro. Faut-il sortir de la zone euro ? Marine Le Pen ne le dit pas clairement cet après-midi à la tribune. Elle s'interroge à partir du moment où l'euro n'a pas apporté les promesses de prospérité et de pouvoir d'achat que ses promoteurs nous avaient vendues. Serait-il illégitime de poser le problème ? Donc elle pose la question, mais elle n'apporte pas de réponse claire. Est-ce que c'est une réponse au sondage du Figaro, d'ailleurs publié cette semaine, sur ces Français qui veulent une sortie de la zone euro. 28% des Français interrogés dans le Figaro cette semaine disent qu'il faudrait que la France sorte de la zone euro. Ça, c'est un problème pour Marine Le Pen.
Renoncer à ses fondamentaux, mais qu'elle est prudente. Si on étudie même très bien les sondages, on voit que ce qui manque aujourd'hui à Marine Le Pen, finalement, pour forcer le plafond de verre, c'est le vote des retraités qui ont peur de perdre leur économie. Donc ça se joue sur la question de l'euro notamment. Donc je pense qu'elle va mettre la pédale douce sur ces questions économiques jusqu'au second tour. Et probablement, elle disait à la fin de son débat sur TF1 qu'elle en appellerait au référendum. Donc on voit que sa position change tout doucement sur cette question-là, mais qu'en même temps, elle reste très ferme sur la question des frontières, par exemple.
D'autant que le calendrier ne lui est pas favorable. Mercredi, les Anglais vont annoncer officiellement, lancer la procédure de Brexit. Il va y avoir des conséquences sur la monnaie anglaise. C'est couru d'avance, on les connaît. Tout d'un coup, on va parler d'argent. Tout d'un coup, on va dire, on va présenter la facture aux Anglais. Et tout d'un coup, là, l'argumentaire, on peut sortir tellement facilement de l'euro, il tombe. Ça, c'est... Si on sort de l'euro, ça nous coûtera cher.
En tout cas,
c'est la politique fixe.
Les Anglais
vont le processus économiquement depuis qu'ils ont annoncé leur.
Oui,
mais si on écoutait les journalistes, ils devaient s'effondrer dès le lendemain du.
Mais
oui,
pas du non, c'est pas du tout
aujourd'hui. Ce qui est clair,
l'économie britannique va très bien. Elle a jamais été aussi bien en termes de
français. Ils devaient retrouver le bonheur le lendemain du Brexit.
Pardon, mais il faut aller en Angleterre.
La moitié de la population anglaise s'est demandée
ce qu'elle avait fait. Oui, le lendemain du Brexit, sauf que. S'il vous plaît, on parle tous ensemble, donc on ne vous entend pas. Le lendemain du Brexit, sauf qu'on pas encore. Alban Mekosi, le lendemain du Brexit, sauf que le Brexit n'a pas encore eu lieu. C'est ce qu'il faut
d'accord,
aussi.
Oui, mais, dire, mais qu'il y a des gens, les bourses allaient s'effondrer, comme au lendemain de l'élection
mais
de Donald Trump.
Ce n'est pas seulement la bourse.
Pour revenir.
Donc je mets juste en garde contre les prophéties catastrophiques qui ne se sont jamais réalisées.
De la même que les rêves fous, le retour à la prospérité, au bonheur dans le pré britannique. C'est pas vrai. Et on constate aujourd'hui, regardez les réactions des Anglais et des inquiétudes qui montent en Angleterre devant l'hypothèse même du Brexit.
Pour revenir à Marine Le Pen, est-ce que cette question de l'euro peut lui empoisonner sa fin de campagne et peut l'empêcher de progresser et d'augmenter l'adhésion des électeurs?
Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que les électeurs de Marine Le Pen, aujourd'hui, son électorat est extrêmement stable. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train d'essayer de chercher au-delà de ça. Donc, si elle met un peu une pédale douce sur l'euro, c'est parce qu'elle sait que ses électeurs qui ont déjà décidé de voter pour elle ne vont pas s'enfuir pour ça. En revanche, elle essaye d'aller en convaincre d'autres, donc je parlais tout à l'heure des électeurs de François Fillon, mais elle a un autre problème avec son positionnement sur l'euro, c'est que le monde économique est très inquiet en écoutant ce discours. Donc elle ouvre une porte en parlant de référendum, elle dit les choses ne sont pas figées, ma religion n'est pas totalement faite sur cette question-là, et elle essaye un petit peu de rassurer cet électorat qui potentiellement pourrait lui permettre de déplacer ce fameux plafond de verre qu'on a décrit.
Et là, je suis d'accord, elle cherche à récupérer éventuellement l'électorat filloniste si Fillon n'était pas au second tour. Je pense qu'il y a une partie de la droite qui peut être d'accord avec Marine Le Pen sur les thématiques identitaires, mais qui est beaucoup plus prudente sur l'économie. Donc là, elle essaie d'apparaître plus sérieuse sur le plan économique, même si la question de la sortie de l'euro, à mon avis, est une question sérieuse qui peut être débattue et qui ne doit pas être tranchée de manière catégorique. Comme
on va
tout à
parler de la question européenne dans deux minutes. Juste après l'info, 20h20, Yasmina Adila.
La grogne en Guyane ne faiblit pas. Le territoire est paralysé par un mouvement social de grande ampleur. La ministre des Outre-mer, Erika Barenge, assure qu'elle se rendra sur place lorsque les conditions seront réunies. Une grève générale doit débuter demain. En attendant, les barrages ont été levés provisoirement pour permettre les ravitaillements. La situation en Guyane évoquée dans la plupart des discours des candidats à la présidentielle. À 29 jours du scrutin, les meetings s'enchaînent. Emmanuel Macron est en déplacement à Mayotte. Jean-Luc Mélenchon est à Rennes où il a tenu un discours devant 10 000 personnes selon les organisateurs. Marine Le Pen effectuait son seul déplacement dans le Nord, c'était cet après-midi à Lille. La piste terroriste écartée aux États-Unis. Une fusillade dans une boîte de nuit de l'Ohio a fait un mort et 14 blessés. Plusieurs d'entre eux seraient entre la vie et la mort. La police parle d'un seul tireur actuellement en fuite. Des centaines d'interpellations en Russie. Arrestation en marge d'une manifestation anticorruption à Moscou. Mouvement lancé à l'initiative de l'opposant Alexeï Navalny. Lui-même interpellé lors de cette marche. Le Kremlin parle d'une manifestation interdite. Le SIDAction se termine ce soir à minuit. Près de 4 millions d'euros récoltés en ce moment. Un chiffre en légère baisse par rapport à l'année dernière. Vous pouvez encore donner si vous le souhaitez. Pour cela, il faut composer le 110 ou aller sur le site internet sidaction.org.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, Christelle Bertrand, Le Parisien Magazine, François Ernenwein, La Croix, Alexandre Devecchio, Le Figaro et Alban Mekosi de France 2. On a connu des anniversaires un peu plus joyeux. Les dirigeants de l'Union Européenne se sont retrouvés à Rome ce week-end pour célébrer les 60 ans du traité de Rome signé le 25 mars 1957. Il crée la Communauté économique européenne, le marché commun et la Communauté européenne de l'énergie atomique. Et il promettait dans son préambule, ce traité de Rome, une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, 6 pays fondateurs de l'Union. 60 ans plus tard, l'Union européenne semble suspendue à l'échéance électorale française. Est-ce que l'avenir de l'Union se joue le 7 mai prochain, date du second tour de l'élection présidentielle française, comme beaucoup le disent depuis quelques semaines?
Non pas simplement à partir de l'élection française, mais des élections en République fédérale allemande. c'est les deux principaux pays, les moteurs de la construction européenne, ce qu'on appelle vulgairement le couple franco-allemand, c'est absolument essentiel. Donc la nature des élections en Allemagne, la nature des élections en France, des résultats, auront une importance capitale sur la dynamique de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Europe est épuisée, elle est à bout de course dans le modèle construit il y a 10 ou 15 ans. Il faut une relance européenne et c'est par le couple franco-allemand, comme toujours dans l'histoire de l'Europe, que cette relance sera possible ou ne le sera pas.
Même si en Allemagne, pour l'instant, sont Angela Merkel et Martin Schulz qui sont tous deux pro-européens qui ont les faveurs des sondages. Alors évidemment, vous allez me dire, tout ça peut changer. Mais le panorama politique en Allemagne n'est pas tout à fait le même que celui de la France.
Absolument, mais la nature de l'élection donnera la tonalité des conversations qui viendront ensuite.
Moi, je pense Alexandre que ça, le déclin, à mon avis, de l'Union européenne telle qu'on la connaît est amorcé. Peut-être que 60 ans, c'est un bon âge pour partir à la retraite. J'allais dire, ça va jouer, ça peut jouer là. Effectivement, avec les élections en France, on peut aussi voir le Brexit. C'est dans un an. Là, on verra effectivement les résultats.
Dans un an ou plus.
Ou plus, on pourra voir dans un an et demi. Mais c'est marrant. Des fois, c'est très court, et puis des fois, c'est très long. Donc, on verra dans un an et demi. Mais si ça se passait bien, peut-être que ça donnerait des idées à d'autres pour faire la même chose. Et ensuite, il y a également le cas de la Grèce, dont personne ne parle, mais qui est quand même à son 556e plan d'austérité, dont j'exagère un petit peu, et qui est toujours aussi endetté, qui va peut-être faire défaut. À partir du moment où la Grèce fait défaut, l'Allemagne, qui va devoir payer, sera peut-être moins favorable à l'euro.
Donc on dramatise un peu l'enjeu du 7 mai en France.
Il y a beaucoup de crises possibles en Europe, et je crois que l'Union européenne telle qu'elle est, fondée sur la technocratie et le marché est en train d'entamer un vrai déclin.
Alban Micosi.
Eh bien moi, je vais défendre l'Europe. Je suis pas d'accord avec vous. Bon, c'est pas une surprise. D'abord, on se prend régulièrement. Marine Le Pen, vous l'a cité tout à l'heure, contre la mondialisation. Je veux dire, qui est le porte-parole de la mondialisation qui va pouvoir défendre ? C'est un argument de campagne. Et l'Europe, c'est la même chose. On se prend de manière permanente. On s'en prend à Bruxelles, à l'organisation technocratique. Mais qui a créé l'Europe ? Ce sont des États qui administre l'Europe, sinon que des chefs d'État. Les réunions des conseils de l'Europe, ce sont nos propres gouvernements. Donc on ne peut pas s'en prendre à Bruxelles, ça n'a pas de sens. Bruxelles, c'est aussi nous.
Mais sur la question de l'enjeu du 7 mai de l'élection présidentielle française...
Il est capital. Une Europe sans la France, enfin, n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je veux dire que la question ne se pose même pas. Si la France sort de l'Europe, il n'y a plus d'Europe. Mais attention à quelque chose. On dit, admettons, la France sort de l'Europe. Imaginons ça. On est dans un cas strictement théorique. Vous pensez vraiment que nos voisins vont continuer à nous traiter de la même manière ?
Donc il y aura une réaction...
Mais par définition...
L'Allemagne ne traite pas particulièrement bien, je crois.
La France
et après, l'Europe ne
Alexandre
s'arrêtera Vecchio pas avec la sortie de la France, puisque l'Europe est une vieille civilisation fondée sur des nations, sur une culture, donc l'Union européenne s'arrêtera
voilà,
après.
L'Union européenne,
voilà, c'est tout à fait différent.
Christelle Bertrand, sur l'enjeu du 7 mai, beaucoup disent que l'enjeu, il est européen, voire mondial.
Non mais c'est une échéance essentielle, parce qu'on voit bien que l'Europe a aussi été fondée par des personnalités et par des relations de couple entre personnalités de dirigeants européens. On pense évidemment à Mitterrand-Kohl. L'Europe peut parfois faire des bonds en avant parce que deux personnalités vont décider de se parler, de travailler ensemble, souvent le couple franco-allemand, et de faire avancer l'Europe. Donc si le futur président français, dans une dynamique pro-européenne, les choses peuvent effectivement s'améliorer, si Marine Le Pen était élue à la présidence de la République, évidemment, on serait dans une histoire complètement différente.
C'est un couple Marine Le Pen-Angela Merkel, c'est pas la même chose que Martin Schulz, Emmanuel Macron, par exemple.
C'est ça,
hein.
Voilà.
Par exemple. Et on prend deux directions complètement opposées.
Complètement
mais vous diffusiez,
différentes.
C'était très intéressant, un document dans la journée, sur les anniversaires de l'Union européenne. Hein, les 10 ans, les 20 ans. Et aux 10 ans, l'Europe était déjà en crise. Aux 20 ans, c'était une catastrophe. Aux 30 ans, il fallait arrêter. Bon, il faut dire quelque part, il faut que quelqu'un soit l'avocat de l'Europe.
La situation n'est pas très rose non plus aujourd'hui.
Mais évidemment, mais l'Europe a aussi généré un certain nombre d'effets positifs dont que personne ne défend aujourd'hui. Et c'est extraordinaire.
La crise que traverse l'Europe peut être très utile pour la redéfinition de l'Europe souhaitable, désirable, plus démocratique. Les phénomènes de crise dans toutes les institutions se produisent. La question centrale, c'est la gestion des crises. Et je mets en garde contre un certain discours qui consiste à dire « rien n'est grave et tout est possible ». Quand Trump a été élu, on a raconté partout que il prendrait le pli du pouvoir, que les États-Unis étaient une grande démocratie et que rien ne menaçait la stabilité du monde. Aujourd'hui, toutes les négociations internationales sont dans l'impasse à cause de Donald Trump, notamment. Il est temps de se rendre
On va reparler de Donald Trump dans quelques minutes.
C'est un exemple.
On parlera de Donald Trump.
C'est exactement le même phénomène sur l'Europe.
Et de la campagne française. Restez avec nous, la suite des informés de France Info dans quelques minutes. À tout de suite. La route en ce dimanche soir. Élise Thibault, PC Mobilité de Radio France. Une autoroute coupée dans le département du Rhône.
Oui, l'autoroute A89 est fermée à hauteur de Tarare, donc 40 km après Lyon. Quand vous allez en direction de Clermont-Ferrand, on a un bus tombé en panne dans le tunnel. Ça entraîne actuellement près d'une heure et demie de bouchons. À vous signaler aussi cet accident à l'entrée de Metz sur l'autoroute A31. Quand vous venez du nord, vous êtes ralenti pendant une vingtaine de minutes. Et puis en région parisienne, encore des ralentissements pour rejoindre la capitale, notamment par la 13, mais ça s'améliore. En revanche, ça reste compliqué sur l'autoroute A1 à hauteur de Roissy. Vous avez toujours une heure d'attente en direction de Lille.
Élise Thibault pour la route.
France Info Météo avec CIC et vous. Bienvenue dans une banque digitale et surtout humaine. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Le temps de votre début de semaine avec Jean-Michel Golinski.
Demain, les températures vont se maintenir à peu près au même niveau qu'aujourd'hui, c'est-à-dire toujours au-dessus des normales. Mais pour autant, on n'évitera pas le risque de gelée blanche en fin de nuit, notamment du nord de la Seine au quart nord-est. Le soleil va briller sur 75% du territoire après la rapide disparition des brouillards et des nuages bas. C'est en fait de l'Aquitaine à la vallée du Rhône que la matinée sera la plus mitigée, avec un ciel déjà bien voilé dans le quart sud-ouest et un golfe du Lion pris dans une grisaille parfois humide, poussé par un vent de secteur sud-est très turbulent jusqu'à la Garonne. En journée, des éclaircies vont se former sur le Languedoc et le Roussillon. Le vent du sud va accélérer dans la vallée du Rhône jusqu'à 70 km/h sur le bassin lyonnais. L'après-midi, des averses vont se déclencher près des Pyrénées et le ciel de la Provence et de la Côte d'Azur va se charger en seconde partie de journée.
Jean-Michel Golinski, Météo France.
Pour acheter, louer, faire construire ou rénover, pensez NF Habitat, votre repère qualité. Plus d'infos sur nfhabitat.fr.
NF Habitat, une certification de l'association Qualitel.
NF Habitat, la vie devant soi.
France Info, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
L'info à 20h30, Emmanuel Langlois.
Toujours l'impasse en Guyane, la grève générale est annoncée pour demain. Ce soir, les barrages ont été levés pour permettre à la population de s'approvisionner. Une quarantaine de syndicats appellent donc à cette grève générale illimitée. Une délégation interministérielle est arrivée hier soir à Cayenne. Mais sans ministre à l'intérieur, les conditions ne sont pas réunies, expliquait ce matin sur France Info la ministre de l'Outre-mer, Erika Barège. Une décision qui indigne David Richer, président de l'Association des maires de Guyane.
On souhaite avoir un ministre à nos côtés. Nous avons demandé à l'Association des maires par courrier à François Hollande d'envoyer un ministre à nos côtés. On envoie juste une délégation avec des hauts fonctionnaires aujourd'hui. La ministre dit que c'est le temps du dialogue. Le temps du dialogue, il était avant. Le temps n'est pas là pour faire un diagnostic, pour écouter ici et là les demandes. Le gouvernement les connaît, on les a fait remonter, ça fait un laps de temps. Et la ministre ne veut toujours pas entendre qu'il faut envoyer un ministre. Ici, des ministres ou le Premier ministre, et pourquoi pas le Président de la République. On a l'impression que, qu'en Guyane, on ne prend pas un petit peu comme les autres en métropole. Ça se passerait aujourd'hui à Bordeaux. Imaginez une région complètement fermée, des routes bloquées dans toute une région. Vous pensez qu'un ministre ne serait pas déplacé, qu'on aurait envoyé un ancien préfet ?
David Richer, président de l'Association des maires de Guyane. Et ce soir, le gouvernement dénonce l'instrumentalisation de la crise sociale dans le territoire par certains candidats à la présidentielle, visant notamment François Fillon et Marine Le Pen. Enquête express à Monaco, 4 suspects arrêtés après le spectaculaire braquage de la bijouterie Cartier. C'était hier après-midi, en plein cœur de la principauté. Le butin a été récupéré en grande partie. Le premier de ces suspects avait été arrêté dans la foulée du hold-up. Les trois autres ont suivi dans la nuit en France, à la frontière et à Monaco. Élection régionale en Allemagne avec 41% des suffrages. La CDU d'Angela Merkel reste le premier parti dans la Sarre. Devant les sociodémocrates du SPD, les Verts, eux, ne passent pas la barre des 5%. L'extrême droite atteint 6% des voix. Le scrutin avait valeur de test pour la chancelière et pour les conservateurs à 6 mois maintenant des législatives allemandes. Il est 20h33 sur France Info. Suite et fin des informés tout de suite.
Les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, vous êtes avec nous sur France Info, la radio, la télé, le canal 27 de la TNT. Et sur franceinfo.fr avec nous ce soir Christelle Bertrand, journaliste politique au Parisien Magazine, François Hernenwein, rédacteur en chef de La Croix, Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, responsable du Figaro Vox, et Alban Micosi, rédacteur en chef adjoint du service international de France 2. On va parler dans la prochaine demi-heure de Donald Trump qui veut rebondir après son échec à supprimer l'Obamacare, de la campagne de François Fillon persuadé d'être victime d'un complot. Avant cela, le décollage de Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise a le vent en poupe. Dans les sondages, il devance désormais Benoît Hamon, le candidat socialiste, et Jean-Luc Mélenchon se rapprocherait de François Fillon. Jean-Luc Mélenchon en meeting à Rennes cet après-midi devant 5000 personnes, plusieurs milliers également n'ont pas pu rentrer dans la salle. Jean-Luc Mélenchon s'en est pris à Marine Le Pen et son voyage à Moscou.
Que ceux qui m'ont attribué sans cesse je ne sais quelle accointance avec M. Poutine, pour la raison que je dis depuis le début qu'il faut faire des Russes des partenaires, quelle que soit la situation, et que je n'ai pas d'amitié pour cet homme, ni d'entre gens, ni de point commun, au point d'aller en pleine élection aller chercher auprès de lui une poignée de main qui discrédite celui qui la touche, pour la raison du contexte dans lequel on est. La deuxième erreur, c'est qu'elle ait été discutée avec cet antisémite homophobe qui a déposé en Russie les lois contre les homosexuels. Et chaque Russe doit savoir que ce n'est pas ça la France. Nous ne sommes pas cette femme. Nous restons le parti de l'humanisme.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon cet après-midi à Rennes qui fait allusion à cette photo, hein, Marine Le Pen avec un député russe antisémite et homophobe. Elle ne savait pas qui c'était, l'a défendu Florian Philippot qui explique que Marine Le Pen s'est fait photographier par et avec plusieurs députés russes. Jean-Luc Mélenchon donc à Rennes cet après-midi, du monde à ce meeting, un engouement en ce moment autour de Jean-Luc Mélenchon, conséquence de plusieurs mois de campagne ou bien de sa prestation de lundi au débat télévisé. Comment vous analysez cela, François Hernenwein?
Ça progresse, mais puisqu'on évoquait la Guyane tout à l'heure, c'est pas Kourou quand même. Aujourd'hui, il n'y a pas d'envolée.
Ah oui,
de
d'accord,
la...
Ariane 5.
Fusée. Mélenchon, il gagne 2 points.
Vous voulez dire qu'il ne s'envole pas aujourd'hui ou il ne s'envole pas du tout?
Il décolle lentement, d'accord, dans sa progression, mais...
Il n'est pas fulgurant, quoi.
Voilà. Non, mais le coup qui semble réussir, si on prend au sérieux les sondages, c'est qu'il réussit à s'imposer dans son duel avec Benoît Hamon. Or, ce n'était pas gagné d'avance, puisque... Benoît Hamon était un très mauvais candidat pour Jean-Luc Mélenchon. Un très mauvais candidat parce que c'était un frondeur, il occupait une partie de l'espace que Jean-Luc Mélenchon prétendait occuper tout seul. Donc ça, c'est incontestablement une bonne nouvelle pour lui, il progresse.
Alexandre Devecchio, oui, il tire profit des difficultés de Benoît Hamon.
Je pense que c'est un bon candidat, c'est un formidable orateur, c'est quelqu'un qui est un intellectuel, et c'est quelqu'un surtout qui essaie d'avoir une vision. On peut ne pas la partager, mais il essaie de définir une vision de la France, et ça compte, je trouve, énormément à l'heure des experts comptables, où on propose une mesurette par-ci, une mesurette par-là. Lui, il a une vision peut-être utopiste, mais une vision globale qui me paraît intéressante, et je crois que c'est pour ça qu'il séduit. Et après, c'est intéressant ce qui se passe dans la recomposition de la gauche, puisqu'on voit que le PS est en train de mourir, tout simplement, et peut-être que demain, un parti comme celui de Mélenchon prendra la place. Après, moi, je regrette, puisque je pense qu'il avait de réelles capacités pour dépasser les clivages, Jean-Luc Mélenchon, et qu'il ait fait finalement une campagne malgré tout d'extrême gauche. Je crois qu'il est un peu hors sujet avec sa 6e République. C'est pas tout à fait l'enjeu du moment.
Vous pensez qu'il parle d'abord à la gauche?
Je c'est pense ça qu'il votre parle analyse de son d'abord discours. À la gauche, alors qu'il avait une capacité d'orateur pour dépasser les clivages. Le problème, c'est qu'il est prisonnier d'alliances, notamment avec Clémentine Autain, de gens qui sont vraiment à l'extrême gauche. Donc, il essaie simplement de rassembler la gauche de la gauche.
Lui dira qu'il parle aux indécis et aux Français qui aujourd'hui hésitent encore dans la campagne, Christelle Bertrand.
Oui, puis il parle aussi aux électeurs de Benoît Hamon. Effectivement, il bénéficie à la fois de cette belle prestation lors du débat de lundi soir. Il bénéficie aussi de la mauvaise prestation de Benoît Hamon, et on voit bien qu'il y a une porosité entre les deux électorats. Et aujourd'hui, si les courbes se croisent, c'est parce que les uns sont passés d'une maison à l'autre, on va dire.
Mais donc, sont les vases communicants entre Benoît Hamon, oui, et Jean-Luc Mélenchon uniquement, ou bien Jean-Luc Mélenchon, par sa personnalité, par aussi son discours sur l'Union européenne, par exemple, il peut aller chercher au-delà de la gauche.
Ce qui me paraît intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon est sur un positionnement qui consiste à accueillir autour de sa candidature tous ceux qui ont un discours extrêmement critique par rapport à la gestion de François Hollande. Tous les gens qui ne concèdent rien au bilan du président de la République sortant. Alors que Benoît Hamon, et c'est la difficulté pour lui, il est dans une position plus ambiguë, c'est-à-dire il porte au fond, d'une certaine façon, ceux qui espèrent encore un petit peu dans la gauche socialiste. Et c'est pas facile.
C'est plus dur à lire.
C'est moins lisible, c'est plus difficile à convaincre quand on est sur cette position, compte tenu de l'évaluation, de la perception dans l'opinion de ce qu'est le bilan de François Hollande aujourd'hui.
Sur les Benoît Hamon, de manière étonnante, voilà, Benoît Hamon, premier défenseur d'un quinquennat qu'il a quand même en grande partie combattu.
C'est ça qui rend sa
positionnement.
C'est ce positionnement qui est très compliqué à lire.
Oui, c'est une défense qui est assez timide, tout de même, celle du quinquennat de François Hollande par Benoît Hamon.
Oui, mais regardez, en Outre-mer, l'autre jour, il s'est fait
les défenseurs.
Moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit ça qui lui coûte. C'est vraiment un début de campagne qui a patiné parce que des négociations très compliquées avec Jean-Luc Mélenchon et avec Yannick Jadot, et une prestation lundi soir qui était assez mauvaise parce qu'il avait fait un meeting la veille, il était épuisé, et on ne l'a pas vu plus de la moitié de l'émission.
On va continuer de parler de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon également, dans une minute, juste après l'info à 20h40, Yasmina Adila.
Une réunion interministérielle sur la crise en Guyane, entretien entre le chef du gouvernement et les ministres des Outre-mer et de l'Intérieur. À l'issue de la réunion, Bernard Cazeneuve a dénoncé une instrumentalisation politique. Le Premier ministre pointe du doigt certains candidats à l'élection présidentielle. Beaucoup étaient en meeting aujourd'hui, Marine Le Pen à Lille, Jean-Luc Mélenchon à Rennes ou encore Emmanuel Macron à Mayotte. Les trois ont évoqué la crise sociale en Guyane. Et justement, la situation sociale est de plus en plus tendue. Une grève générale est prévue pour demain. Les barrages ont été provisoirement levés pour permettre le ravitaillement des Guyanais. Le territoire est paralysé par un mouvement social de grande ampleur. Les manifestants réclament la venue d'un membre du gouvernement. La ministre des Outre-mer assure avoir entendu la grogne. Erika Barenge ira sur place dès que la situation le permettra. En Allemagne, la CDU l'emporte dans la Sarre. Selon les médias, le parti d'Angela Merkel obtiendrait au moins 40% des voix. Ce scrutin régional était un test pour le parti de la chancelière. À 6 mois de l'élection législative, les sociaux-démocrates de Martin Schulz sont arrivés loin derrière, d'après les derniers sondages sortis des urnes. La Syrie menacée par des inondations à cause des bombardements. Le plus grand barrage du pays est hors service, ce qui risque d'entraîner une dangereuse montée des eaux. La structure contrôlée par Daesh a été bombardée. Par ailleurs, l'armée syrienne annonce avoir repris l'aéroport de la ville.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info avec Alexandre Devecchio, Le Figaro, Alban Micosi, France 2, Christelle Bertrand, Le Parisien Magazine et François Hernenwein. De la Croix, on parlait de Jean-Luc Mélenchon, son meeting cet après-midi à Rennes. Je vous repose ma question. Est-ce qu'on est dans un jeu de vase communicant? Hamon, Mélenchon, en gros, ils vont faire 25-26% à eux deux. Ou bien est-ce que Jean-Luc Mélenchon, par sa personnalité, son discours, son programme, peut aller plus loin et plus haut que Benoît Hamon, Alexandre Devecchio?
J'ai tendance à dire par sa personnalité, il aurait pu, par sa verve, il aurait pu, mais il a choisi un angle, effectivement, à mon avis, pas du tout réaliste, lyrique, qui ne lui permettra pas d'aller au-delà de la gauche. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est le dernier socialiste de cette élection, c'est le seul à s'adresser à la gauche du travail, à un électorat ouvrier. Bah, le revenu universel, Benoît Hamon, à mon avis, vise plutôt les bobos des grandes villes et plutôt dans le gauchisme culturel, la légalisation du cannabis, même le revenu universel, qui est une forme de mépris pour ceux qui croient encore au travail. Et donc, je crois que c'est là-dessus qu'il perd. Et Mélenchon prend un peu plus à un électorat populaire qui n'a pas encore basculé chez Marine Le Pen.
Sur cette question-là,
non,
François
juste, je suis pas, je milite pas pour Benoît Hamon, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand on dit que le revenu universel est le mépris du travail, c'est ce que vous venez de dire.
J'assume.
Oui, attendez, je vais aller au bout de ma démonstration. Le mépris du travail, c'est pas le revenu universel tel que Benoît Hamon le défend aujourd'hui, c'est-à-dire une forme de compensation pour ceux qui ne gagnent pas leur vie en travaillant. Le mépris du travail aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde, c'est des salaires de plus en plus bas pour de plus en plus de gens. Voilà.
Je suis d'accord, mais je crois que justement,
non, mais quand on parle,
Jean-Luc Mélenchon
quand
veut
on parle,
augmenter les salaires.
Quand on parle de mépris du travail, il faut faire très attention à ce qu'on dit, même comme journaliste.
Mais j'assume que justement, il fait le jeu de ceux qui baissent les salaires en offrant une maigre compensation aux gens plutôt que de leur offrir un horizon, ce que ne fait pas Jean-Luc Mélenchon.
Pour rester sur Benoît Hamon, déclaration de Vincent Payon ce midi dans l'émission Questions politiques sur France Info et France Inter, la question d'un rassemblement entre les candidatures de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon, cette question va se poser dans les jours qui viennent, nous dit Vincent Payon, qui soutient logiquement Benoît Hamon. Ça sent le petit couteau dans le dos quand même.
Elle se pose
Christelle
depuis
Bertrand.
Le lendemain de la primaire de la gauche. En fait, elle est mathématique, hein, il suffit de faire une addition et de constater que l'électorat de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon réunis permettrait aux candidats qui resteraient d'accéder au second tour. Séparément, c'est impossible. Donc il y a eu effectivement à nouveau une manifestation, je crois, hier, de gens qui demandaient à l'un et à l'autre de trouver une solution. Mais c'est compliqué. Et c'est d'autant plus compliqué.
Mais là, c'est un soutien de Benoît Hamon qui dit qu'il va falloir se rapprocher.
C'est encore plus compliqué aujourd'hui que les courbes se croisent, je dirais. Parce que logiquement, on se dit qu'il faut se ranger derrière le favori des sondages, qui est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Or, Benoît Hamon a été élu à l'issue d'une primaire qui a quand même réuni 2 500 000 électeurs. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Vous êtes déplacés pour rien, finalement. Mmh. Le candidat que vous avez désigné n'y va pas. Ça me paraît totalement impossible. On est dans une impasse. C'est trop tard. Si ce rassemblement avait dû se faire, c'était dès le lendemain du second tour de la primaire de la gauche.
Alors, candidat en difficulté, Benoît Hamon. Autre candidat en difficulté, François Fillon. Retour sur le terrain ce week-end pour le candidat de la droite, après ses accusations contre un prétendu cabinet noir qui dirigerait un complot contre lui depuis l'Élysée. François Fillon était dans le Pays Basque hier, sortie difficile pour lui, attendu par des manifestants, des militants basques, concerts de casseroles, des G2 également pour François Fillon, qui a confié aux journalistes qui l'accompagnaient « On est dans une situation où il est probable que je sois sur écoute ». Soupçon partagé aujourd'hui sur Europe 1 par l'un de ses soutiens, le député Éric Ciotti.
C'est une probabilité extrêmement forte, d'ailleurs,
qui vous permet de le dire,
qui peut être autorisée dans le cadre des procédures judiciaires qui sont en cours. Il n'y aurait pas d'illégalité juridique, mais il y aurait, une fois de plus, un scandale démocratique. C'est en gros ce qui se passe depuis 2 mois, où au cœur de la campagne électorale, on a de façon inédite sous la Ve République l'immixtion d'une autorité judiciaire dans le cours du calendrier démocratique.
Mais sur les écoutes, là, vous n'avez pas d'éléments. C'est une possibilité, mais vous n'avez aucun élément qui vous permet de le dire. Pour que ce soit clair, ce matin, parce qu'on a été troublés à la lecture de ces propos.
Moi, personnellement, je n'ai pas d'éléments, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis 2 mois...
Voilà, Éric Ciotti, compte tenu de ce qui s'est passé depuis 2 mois, je termine sa phrase. François Fillon est sans doute sur écoute, nous dit-il. C'est un copier-coller de la stratégie de Donald Trump qui l'a mené à la Maison-Blanche face à Hillary Clinton, ou bien c'est le sentiment d'un candidat qui voit s'accumuler les affaires et qui se défend tout simplement.
Je pourrais dire François qu'il y a Landwein. Un petit saut qualitatif qui vient d'être franchi ces derniers jours. On est passé de la victimisation aux accusations des autorités de l'État. C'est dangereux, à mon avis, pour le débat. C'est dangereux pour la crédibilité du candidat, parce que on voit bien que son entourage a du mal à étayer ses accusations. Et puis, c'est pas très bon pour sa campagne, parce que quand on se pose en victime, on s'affaiblit aussi dans le débat.
Bah, ça s'est pas passé comme ça aux États-Unis, François Hanenwein.
Oui, mais pour le comparaison coup, n'est pas raison.
Non, je sais bien, mais c'est un élément de la discussion. Alexandre Devecchio.
On pourrait reparler de Donald Trump. Effectivement, je pense que c'est pas une mauvaise stratégie, mais on n'est peut-être pas obligé de parler tout de suite de stratégie. Quand le Canard Enchaîné fait un article sur François Fillon, on s'intéresse à ce qu'il y a dans le Canard Enchaîné. Là, il y a un livre qui sort. On pourrait s'intéresser à ce qu'il y a dans ce livre. On pourrait s'intéresser aussi à un autre livre sur Bercy et Emmanuel Macron et tous ces conflits d'intérêts, on ne le fait pas. Pourtant, ce ne serait pas la première fois qu'un président socialiste met des gens sur écoute. Donc, on pourrait aussi peut-être parler du fond et se dire que pourquoi pas les accusations de François Fillon ont un fondement. Allez voir ce qu'il y a dans ce livre.
Il n'y a pas dans le livre le fait que François Fillon soit sur écoute.
Ne déclenche pas une enquête immédiatement. On a vu que Christiane Taubira avait mis Nicolas Sarkozy sur écoute, même si elle prétendait le contraire. On se souvient des papiers qu'elle agitait devant la caméra. Donc je pense que le sujet est
Nicolas Sarkozy était sur écoute.
Je pense que les journalistes devraient être curieux et je trouve qu'ils sont curieux dans un sens et pas toujours dans l'autre. Donc je pense que s'il y a une opération de diversion dans cette campagne, c'est pour masquer la formidable vacuité du discours de Macron et pour ne pas parler des vrais sujets de la campagne présidentielle. Donc la scénarisation de l'affaire Fillon jour après jour, à mon avis, est aussi une opération de diversion. Donc je pense qu'on devrait s'interroger sur ces allégations, voir.
Donc il a raison de penser qu'il est sur écoute.
Il a raison de penser qu'il est sur écoute, je pense.
Alban Micosi.
Moi, j'ai pas d'informations évidemment sur le fait qu'il soit sur écoute ou pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que il y a deux choses qui attirent mon attention. La première, c'est qu'il y avait un boulevard. Remettons-nous 4 mois en arrière. Il y a un boulevard pour la droite conservatrice. La droite conservatrice doit gagner ces élections. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un boulevard en France parce que, globalement, le mandat de François Hollande est un échec aux yeux de 80% des Français. Et deuxièmement, parce qu'il y a un mouvement général de l'Europe vers le centre-droit ou vers la droite qui gagne les élections partout. La France va donc être dans le même mouvement. Et là, non, la machine s'enraye. Pour des bonnes, pour des mauvaises raisons, je n'ai aucune information là-dessus. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'il y a un affolement à droite d'un certain nombre de gens qui voient le mur s'approcher et cette élection imperdable, probablement perdue.
On va continuer de parler de la situation de François Fillon dans 2 minutes, juste après l'info, 20h50, Yasmina Adila.
À barrage levé ce soir en Guyane, une levée temporaire pour permettre aux Guyanais de se ravitailler. La région est paralysée depuis le début de semaine par un mouvement social, de contestation sociale. Air France a annulé 2 de ses vols au départ de Paris à destination de Cayenne. La ministre des Outre-mer assure avoir entendu la grogne. Erika Barench ira sur place dès que la situation le permettra. Dimanche, 2 meetings pour les candidats à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est en ce moment à Mayotte. Marine Le Pen était cet après-midi en meeting à Lille. Jean-Luc Mélenchon était, lui, en déplacement à Rennes. Le candidat de la France insoumise revendique la présence de 10 000 personnes venues l'écouter. L'enquête avance à Monaco au lendemain d'un braquage spectaculaire d'une bijouterie Cartier située en plein cœur de la principauté. 3 suspects ont été interpellés, une partie du butin a été récupérée. Une nouvelle interpellation à Londres dans le cadre de l'enquête sur l'attentat de mercredi visant le Parlement britannique. Il s'agit d'un homme de 30 ans arrêté aujourd'hui à Birmingham. La police le soupçonne de vouloir préparer des actes terroristes. L'attaque revendiquée par Daesh a fait 4 morts. 22e journée du top 14 de rugby. Brive l'emporte 22-25 face à Montpellier. À suivre ce soir, le Stade français qui accueille Toulon. Coup d'envoi dans moins de 10 minutes.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info avec Christelle Bertrand du Parisien Magazine, François Ernenwein de La Croix, Alexandre Devecchio du Figaro et Alban Micosi de France 2. François Fillon qui se dit peut-être sur écoute, c'est ce qu'il a confié à quelques journalistes lors d'un déplacement ce week-end au Pays Basque. Il dit également, François Fillon, plus on m'attaque, plus je suis en forme. Christelle Bertrand, est-ce que ça peut lui permettre de remonter dans les sondages ou bien uniquement à conforter ceux qui le soutiennent encore?
C'est là où la stratégie est assez étonnante, c'est que je ne vois pas de tels propos lui permettre de remonter dans les sondages, d'autant que depuis quelques semaines, sa parole est un peu démonétisée, surtout depuis qu'il a dit que s'il était mis en examen, il se retirait et qu'il ne l'a pas fait. Donc lorsqu'il annonce ça sans preuve, j'ai tendance à croire que des gens qui ne sont pas des soutiens fermes le croient. Donc c'est pas pour élargir sa base électorale qu'il fait ça. Je pense que c'est vraiment un écran de fumée qui lui permet, en jetant de l'huile sur le feu comme ça, de ne pas répondre sur les nouvelles polémiques qui apparaissent, et notamment la montre à 10 000 euros et toutes ces choses qu'on a vu apparaître ces derniers jours, qui n'ont pas fait la une de l'actualité comme ça aurait pu l'être. Il y a encore, pour l'histoire des costumes par exemple, il y a encore quelques jours. Donc un écran, un rideau de fumée qui fonctionne. Effectivement, il a réussi, et ça c'est une réussite de ce point de vue-là, faire tourner le débat autour de cette polémique lancée sur sa mise sur écoute et sur l'implication du président de la République, et d'éloigner effectivement les regards de ces nouvelles affaires, entre guillemets, je ne sais pas comment ça se terminera, mais ces nouvelles révélations.
Peut-être qu'on a envie d'entendre autre Alban chose, Micosi. Peut-être qu'on a envie mais d'entendre parler de débat. Moi, je peux vous donner le regard de la presse internationale sur la France. On a fait un sujet en début de semaine, il est catastrophique. Quelle est cette campagne? De quoi parle-t-on? On a envie d'entendre François Fillon parler de ses propositions.
Non mais quand l'un des candidats nous dit « je suis peut-être sur écoute », voilà, ça fait réagir. Non, mais et il est normal qu'à un moment, on se pose quand même quelques questions sur ce qui est en train de se passer, François Ernenwein.
Ces affaires, toutes ces polémiques plombent sérieusement la campagne électorale en France, et puis de longs mois. Et les responsabilités sont pas également partagées dans la dégradation du climat. Ça, on peut le dire aujourd'hui. Simplement, comme ici autour de cette table, les Français ne sont pas des perdreaux de l'année. Sur la fameuse question du cabinet noir, ce qui était problématique dans la sortie de François Fillon, c'est l'outrance de son propos. Tous ceux qui observent la vie politique savent très bien, contrairement à ce que disait François Hollande il y a quelques jours dans son communiqué, qu'il a été prévenu par la presse des soucis que rencontrait François Fillon. On sait à travers l'histoire des institutions et le fonctionnement de l'Élysée sous la Ve République qu'il ne se passe rien en France sans que le président de la République soit informé. Mais de là à dramatiser en parlant de cabinet noir, c'est certainement outré, et cette outrance dessert la qualité de la campagne présidentielle en France aujourd'hui.
Alors, une campagne présidentielle qui est terminée maintenant, encore que aux États-Unis, Donald Trump dispose normalement d'une majorité au Congrès, et pourtant vendredi soir, il a été contraint de retirer sa réforme de la santé, autrement dit abroger l'Obamacare. C'était sa volonté, il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Donald Trump qui s'est exprimé quelques minutes seulement après ce retrait.
Nous sommes tout prêts, et une fois de plus, je pense que ce qu'il va se passer, c'est qu'Obamacare va exploser et va connaître une très mauvaise année. Quand Obamacare explosera, ce qui arrivera bientôt, si les démocrates s'associent à nous et font une vraie loi de santé, j'y serai totalement ouvert, et je pense que cela arrivera. Je suis déçu aujourd'hui, parce que nous aurions pu le faire. Je suis déçu et un peu surpris, pour être honnête. Nous y étions presque, à portée de main. Mais je vais vous dire ce qui en sortira. C'est une meilleure loi. Je crois vraiment en une meilleure loi.
Voilà, Donald Trump qui en appelle aux démocrates et qui aujourd'hui sur Twitter s'en prend à l'aile droite des républicains. Il a été en quelque sorte trahi par les siens, Alban Micosi, Donald Trump, dans cette affaire.
Effectivement, c'est la conclusion qu'on peut en tirer, mais on n'est pas surpris. Il y a une trentaine de députés dont on savait, de représentants dont on savait qu'ils ne voulaient pas une amélioration de l'Obamacare, qu'ils en veulent tout simplement la suppression et que eux veulent que le système tombe en faillite. Et voilà Donald Trump en train de faire un appel éploré aux démocrates, aidez-moi à reconstruire un système cohérent. J'allais dire,
mais ce que vous dites, c'est que c'est un centriste, Donald Trump.
C'est un protectionniste, finalement. Mais c'est vrai depuis
Alexandre
toujours. Je suis content que vous ayez répondu comme ça, parce que ça permet de mettre à mal certaines contre-vérités. Effectivement, il a été élu sur un programme protectionniste, mais jamais pour abolir l'Obamacare. Il a dit « aucun Américain ne crèvera sur le bord de la route avec moi ». Et il a toujours dit que c'était pour l'améliorer, notamment pour les classes moyennes qui paient très très cher les assurances privées. Donc là, effectivement, il est dans un conflit interne avec le parti républicain. Il a gagné en partie contre son propre parti. Là, il en paye les conséquences. Mais ça montre que Donald Trump est beaucoup plus complexe que ce qu'on a bien voulu dire. C'est pas le milliardaire contre les pauvres, c'est le milliardaire contre les ultra-libéraux du parti républicain.
Et c'est pas le magnifique négociateur non plus qui nous a été vendu.
Mais ça prouve au moins une chose. C'est que dans les démocraties apaisées, les États-Unis, l'Europe, quand on joue les gros bras, on n'arrive pas très loin. On peut faire la liste de tous les échecs de Trump depuis qu'il a été élu président, sur l'immigration, maintenant sur la remise en cause de l'Obamacare. Franchement, son bilan n'est pas bon. Et c'est parce qu'il n'arrive pas à passer des compromis, il n'a pas la culture du compromis, il confond les affaires et la politique, or on ne conduit pas les affaires comme on conduit la démocratie.
Christelle Bertrand.
C'est intéressant, je trouve, en effet. Les qualités qu'il faut pour être un bon chef d'entreprise et diriger des affaires ne sont pas les mêmes qu'être un bon homme politique, qui demande un savoir-faire, un art de la synthèse. Je dirais, ça ne suffit pas, on l'a vu avec François Hollande qui fait ça à merveille.
Christelle.
Pardon.
Allez-y.
En tous les cas, il a oublié de discuter avec tout le monde. Le texte n'a pas été ficelé par lui-même, visiblement. Et on arrive à un échec sur, à mon avis, un texte sur lequel il pouvait trouver un point d'entente.
Et ce sera le mot de la fin. J'en suis désolé, messieurs. Mais vous vous êtes tous exprimés sur cette question de la Trump. Et quelque chose me dit que vous aurez l'occasion de le faire à nouveau. Dans les informés de France Info. Merci à vous, Alexandre de Vécu. Le Figaro, Christelle Bertrand que vous lisez dans le Parisien Magazine, Alban Micosi de France 2, François Hernenwein, la une de La Croix demain, c'est Turc qui vote Erdogan, voilà la une de La Croix demain, et puis vous n'oubliez pas le SIDAction pour la prévention, la recherche contre le SIDA, vous aurez toutes les infos sur sidaction.org. Jean-Mathieu Pernin sera là demain à nouveau pour les informer à partir de 20h. Bonne soirée à tous.